Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous. Le jour même où la marche des femmes réunissait plusieurs millions de personnes aux États-Unis, les femmes polonaises descendaient elles aussi dans la rue. Le 21 janvier dernier, elles ont voulu marquer leur soutien aux Américaines dans leur dénonciation des propos sexistes du nouveau président Trump et alerter sur leur propre situation. À Varsovie, le reportage de Maya Szymanowska.
Abat le sexisme, crie la foule bigarrée qui a envahi les rues de Varsovie ce samedi-là. Le défilé coloré arbore des pancartes en soutien aux Américaines. Point de départ de la manifestation, le siège du gouvernement. Non sans raison, explication de Monika Hausch, l'une des organisatrices de la marche.
Nous avons décidé de manifester aujourd'hui parce qu'à l'automne dernier, quand nous nous sommes mobilisés contre l'interdiction de l'avortement, nous avons reçu des soutiens du monde entier. Des femmes sont descendues pour nous dans la rue. Alors quand nos sœurs ont besoin de nous, nous voulons leur montrer que nous aussi, nous sommes là pour elles, car nous nous battons pour la même chose. Le sexisme de Trump est vraiment terrible.
Voilà bien l'enjeu. Les Polonaises comprennent parfaitement les appréhensions de leurs collègues américaines, car c'est ce qu'elles vivent dans leur pays. Un sexisme ordinaire, exacerbé depuis que les conservateurs sont arrivés au pouvoir, voilà un an. La manifestation passe devant le bâtiment de la Diète, le Parlement polonais. En face de celui-ci, des tentes ont été dressées par des mouvements citoyens. Des militants s'y relaient depuis quelques mois pour signifier au gouvernement leur ras-le-bol. Les femmes y sont nombreuses. Anna Wieczorek, une jeune graphiste de 28 ans, représente cette jeune génération des Polonaises qui ont découvert récemment le militantisme.
Le patriarcat est inscrit dans notre culture. Nous avons été élevés ainsi. On nous a enseigné à défendre le foyer et à laisser les décisions aux hommes. Mais je pense que la mobilisation de l'automne dernier nous a ouvert les yeux. Et chaque femme a pu se retrouver dans les postulats que l'on a mis en place. Chaque femme a trouvé son combat.
Ce qui renforce la détermination de ces jeunes polonaises, leur victoire de l'automne dernier. Le gouvernement a retiré le projet de loi décrié sur l'interdiction totale de l'avortement. Mais la mobilisation continue car les autorités remettent toujours en cause les acquis dans le domaine des droits des femmes. Les conservateurs au pouvoir ont par exemple coupé les financements des organismes non gouvernementaux qui défendent les droits des femmes, notamment le numéro d'urgence pour les femmes battues. Un nouveau projet de loi remettrait aussi en cause les soins durant la grossesse. Les Polonaises ne baissent pas les bras et préparent une grande mobilisation pour le 8 mars et la journée de la femme. Maya Szymanowska, Varsovie, RFI.
L'église moldave doit payer des impôts. C'est en tout cas l'avis de 10 571 personnes qui ont signé une pétition lancée en novembre dernier par des journalistes, des militants et universitaires du pays. Et chaque jour, le nombre de signataires augmente. L'objectif est de faire pression sur le gouvernement moldave pour que les nombreuses donations que reçoit l'église soient soumises à l'impôt, tout comme le commerce d'objets de culte religieux et la prestation de services payants. Une pétition lancée sur fond de campagne présidentielle à la fin 2016. Reportage de Clémentine Métainier.
C'est une initiative populaire qui prend une tournure inespérée. Elle émerge en novembre dernier, quelques jours après l'apparition publique d'un représentant de l'église orthodoxe aux côtés d'Igor Dodon, candidat du Parti Socialiste, aujourd'hui élu président. Si la pétition condamne le non-respect de neutralité entre religion et politique, elle concerne surtout le débat autour de l'imposition de l'Église. Pour Mariana, signataire du texte, ce combat citoyen est ancien et ne doit pas être mêlé à la politique.
Cette pétition spécifique porte un sujet que nous traînons depuis plusieurs années dans ce pays, à savoir ne pas questionner trop. Si chaque Église reçoit des dons spécifiques sur les cérémonies de baptême, de mariage ou d'enterrement, alors je crois que l'État a le droit d'imposer des impôts à l'Église.
Et Mariana a de rejeter les accusations lancées par l'Église orthodoxe, elle qui a pris fait et cause entre les deux tours de la présidentielle pour le candidat socialiste.
Le clergé en a profité pour dire que la société civile le punissait à travers cette pétition. Faux. C'est une question d'équité. L'Église doit payer des impôts comme tout citoyen. Le débat est ouvert depuis de nombreuses années et c'est une coïncidence qu'il ait été ravivé en novembre dernier.
Du côté de l'Église, c'est un tout autre son de cloche. Constantin Cojocaru est prêtre orthodoxe de la métropolie de Moldavie. Il s'agit de l'Église rattachée au patriarcat de Moscou, qui est majoritaire dans le pays, donc concernée par cette pétition. Pour lui, la question de faire payer des impôts à l'Église n'a pas lieu d'être.
In fact, the church pays a lot of taxes because all church.
Dans les faits, l'Église paie beaucoup d'impôts car tous les ministères religieux, tous les prêtres sont des citoyens de ce pays et beaucoup travaillent dans des domaines dans lesquels ils payent des impôts. Par exemple, beaucoup de monastères ont des magasins dans lesquels ils vendent ce qu'ils produisent comme du miel ou ils élèvent des animaux et les vendent. Ils paient des impôts pour cette activité économique.
L'argument le plus saisi par l'Église est celui de son statut, un statut pas comme les autres.
On dit que l'Église doit payer des impôts, mais une Église n'est pas un immeuble, une Église n'est pas un business. Une Église, ce sont des gens, ils sont citoyens du pays, donc ils payent des impôts. Par exemple, les bougies sont-elles des produits économiques ou sont-elles l'expression de dons pour l'Église ?
Pour les militants les plus fervents, pas question d'en rester là. Certains estiment que si l'inspection fiscale, le ministère de la Justice et surtout l'Église continuent de ne pas tenir compte de l'avis des citoyens, une action sera menée à la Cour de justice de Moldavie.
En Turquie, les mères de famille ont toujours autant de mal à reprendre le travail, faute de structures pour garder leurs enfants. Qu'à cela ne tienne, répond le gouvernement, demandons aux grands-mères de s'en occuper. Pas si simple, Anandlower.
L'idée est aussi simple que le constat est clair. Si les Turques sont si peu nombreuses à travailler, moins de 30% d'entre elles, c'est d'abord parce qu'elles manquent d'endroits où confier leurs enfants jusqu'à 5 ans et demi, l'âge d'entrée à l'école primaire. Le manque de crèches publiques est criant, il a même baissé ces dernières années. Et les premières à en souffrir sont les femmes de milieux pauvres qui n'ont pas les moyens de payer des structures privées. Résultat, d'après une enquête récente, 44% des Turcs qui ont quitté leur emploi à la naissance d'un enfant mettent d'abord en avant les problèmes de garderie. Encore plus édifiant, 85% d'entre elles assurent qu'elles reprendraient le travail si l'État les aidait à faire garder leurs enfants. Les aider, mais comment ? Dans les plans du gouvernement, c'est là qu'interviennent les mamies. Sous certaines conditions qui restent à définir, l'âge de ces grands-mères, le niveau de revenu des mères, l'État paierait environ 30% du salaire minimum à celles qui accepteraient de garder leurs petits-enfants, soit un peu plus de 100 euros, ce qui reste très faible mais peut suffire à convaincre les mères et les grands-mères. La mesure sera d'abord testée dans deux métropoles turques, Istanbul et Bursa. Dès son annonce, le projet a suscité de nombreuses critiques. Elles sont de deux ordres. D'abord, certains mettent en doute la capacité de personnes âgées à s'occuper de jeunes enfants pendant que leurs parents travaillent à temps plein. Les professionnels de la petite enfance, formés et encadrés, sont perçus comme irremplaçables. Surtout, les critiques accusent l'État de se défausser de ses responsabilités sur des retraités, plutôt que de développer les systèmes de garde et de faire appliquer les mesures existantes. Un exemple, les quelques 5000 entreprises turques qui emploient plus de 150 femmes sont en théorie obligées de prévoir des salles d'allaitement et des espaces de garde. Mais sur 150 sociétés contrôlées récemment, une trentaine seulement respectaient la réglementation. Les sanctions sont minimes, les incitations inexistantes et les besoins, eux, restent immenses.
Livre. Molenbeek, le monde entier connaît désormais le nom de cette commune bruxelloise, décrite comme une fabrique de djihadistes au grand dam de ses habitants. Alors pour faire la part des choses, les journalistes Christophe Lanfaloussi et Jean-Pierre Martin ont mené l'enquête avec un ouvrage au titre assez provocateur malgré tout, Molenbeek sur djihad. Première anecdote racontée par Jean-Pierre Martin, grand reporter à RTL Belgique, au micro de Catherine Roland.
Lorsque Abrini, ce djihadiste qui était arrêté un mois à peu près après les attentats de Bruxelles, le 22 mars dernier, Abrini, c'est l'homme au chapeau qui devait normalement se faire exploser. Lorsqu'il est arrêté, il a déclaré aux enquêteurs qu'il avait été à Raqqa, il avait bien été à Raqqa et qu'il y avait vu tout Molenbeek.
Oui, et du coup, c'est finalement un portrait assez sombre, un peu anxiogène de cette commune tout près de Bruxelles.
Et je vous avoue que ce n'est pas le but que nous recherchions, puisque nous avons voulu apporter des clés de compréhension sur une longue histoire qui a commencé dans les années 60. Et nous ne voulions pas non plus stigmatiser une population qui se sent brimée. Je raconte cette conversation avec un papa qui nous dit « Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point je souffre de ce qui s'est passé. Nous sommes devenus les parias du monde entier puisque nous avons été désignés comme les coupables de tous ces attentats. » Ce n'est pas le cas. Toute la population de surcroît n'est pas considérée comme membre de ces organisations djihadistes, mais elle a été victime aussi, elle a été prise en otage par ces jeunes délinquants devenus djihadistes.
Alors justement, pour éviter d'amalgamer les choses, on reprend un petit peu l'histoire de Molenbeek, en même temps l'histoire de la Belgique, et on apprend déjà que la plupart des immigrés marocains venaient du Rif, une région rebelle au Maroc, et où l'on pratique un islam plutôt dur, conservateur.
Alors, à ne pas confondre avec l'autre islam qui a été le terreau du djihadisme. Comme beaucoup de populations des montagnes, et c'est le fait aussi dans d'autres religions, ils ont une conception assez conservatrice du monde, très patriarcale et très conservatrice. Mais nous ne parlions pas en termes d'idéologie religieuse, bien évidemment.
Et est-ce qu'on pouvait prévoir finalement que Molenbeek plonge ainsi dans le radicalisme ?
À la lumière de ce que nous avons appris, il apparaît que les gouvernements successifs et les élus locaux auraient dû être davantage attentifs. Un des enquêteurs, des policiers les plus connus de l'antiterrorisme en Belgique, nous a dit que ceux qui ne savaient pas ou n'avaient pas voulu voir étaient des menteurs. Cette confidence, je pense, résume relativement bien ce qui s'est passé à Molenbeek et peut répondre à votre question.
Oui, parce que ce qu'on se dit, qu'est-ce que la Belgique a raté finalement ? On pourrait se poser la même question en France.
Il y a sans doute des parallélismes, bien que je connaisse moins bien la situation ici en France. Mais en Belgique, ce qu'on a raté, c'est d'abord l'intégration. Molenbeek, c'est le quartier dont nous parlons, le quartier historique, se trouve à quelques centaines de mètres de la Grand Place. En Belgique, il n'y avait pas de connaissance de l'islam quand nous avons accepté cette main-d'œuvre étrangère. Majoritairement, ces immigrés marocains, qui pour la plupart d'ailleurs étaient passés par le nord de la France avant de venir s'établir en Belgique. Nous ne sommes pas du tout préoccupés ni de leur tradition, ni de leur spiritualité. Et quand l'Arabie Saoudite a proposé, avec ses propres intérêts, de s'en occuper, eh bien nous avons refilé le paquet en quelque sorte, et c'est l'erreur que nous n'aurions pas dû commettre, parce que nous n'avons pas été attentifs à l'idéologie extrêmement conservatrice, l'idéologie wahhabite, qui a commencé à être diffusée presque immédiatement par des prédicateurs venus d'Arabie Saoudite.
Quand vous parlez de « on », vous parlez notamment des politiques, des politiques que vous pointez notamment le laxisme de ces politiques, et en particulier celui de Philippe Moureau, le maire, enfin le bourgmestre de Molenbeek, qui a été élu quand même à la tête de la ville entre 92 et 2012, je crois.
Il porte sa responsabilité, mais une fois de plus, elle est collective dans le sens où il y avait comme une volonté en Belgique de ne pas faire de vagues et de ne pas trop affronter directement les problèmes dans l'espoir qu'il ne se passerait rien et que nous serions épargnés. Cette façon de penser que les problèmes pourraient être résolus en faisant appel aux grands frères, en n'affrontant pas directement. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans les banlieues, puisque Molenbeek, comme les banlieues françaises, comme la banlieue de Lyon, a connu ces émeutes. Et à ce moment-là, le maire qui pensait pas forcément clientéliste, je ne pense pas du tout à l'époque, s'en est remis aux grands frères et il a fini par fermer les yeux. Et d'accommodement raisonnable en accommodement raisonnable, eh bien on a permis une sorte d'estompement général des normes qui ont permis l'émergence dans le quartier historique de Molenbeek de ces bandes d'abord de délinquants qui se sont très vite transformés en djihadistes avec l'appui des recruteurs.
Oui, hein, on en apprend plus, hein, notamment sur Abdelhamid Abaoud ou Salah Abdeslam. Vous décrivez d'ailleurs très bien les réseaux qui existent entre tous les djihadistes, y compris, vous décrivez bien aussi celles qu'on surnomme les sœurs, très très importantes, et des réseaux qui semblent exister encore hein, malgré les coups de filet. Est-ce qu'il y a encore un risque évidemment d'attentat ?
La plupart des hommes politiques, qu'ils soient français, qu'ils soient belges, n'arrêtent pas de dire que le pire n'est pas improbable, qu'il pourrait y avoir d'autres attentats. La Belgique a annoncé la semaine dernière avoir déjoué au cours de l'année passée 6 attentats. Alors même si on sait que le groupe qui a été emmené par Abaoud pour les attentats de Paris d'abord et puis pour les attentats de Bruxelles est largement démantelé, d'autres cellules se sont reconstituées, sachant que aujourd'hui ces jeunes adultes formés à la guerre vont revenir chez eux, donc chez nous.
Jean-Pierre Martin, grand reporter à RTL Belgique. Il est donc le co-auteur avec Christophe Lanfaloussi de Molenbeek sur Djihad aux éditions Grasset. Jean-Pierre Martin qui répondait aux questions de Catherine Roland. C'est un nouveau défi né avec Internet et les réseaux sociaux, la lutte contre la désinformation. Le ministère tchèque de l'Intérieur vient de s'atteler à la tâche en montant une nouvelle équipe d'une quinzaine de personnes armées uniquement d'ordinateurs. Le Centre contre le terrorisme et les menaces hybrides fondé il y a quelques semaines va s'employer notamment à démentir les rumeurs qui circulent sur le net tchèque, Alexis Rosenzweig.
Les terroristes qui ont préparé l'attaque de Berlin sont actifs sur le sol tchèque. Faux, l'information n'est pas fondée. Une vidéo censée montrer des migrants musulmans frappant une femme blonde en Europe. Faux, il s'agit d'un règlement de compte à Prague entre trafiquants de drogue. Voilà quelques premiers exemples du travail de ce nouveau département anti-intox. Un tchèque sur 4 s'informerait sur des sites d'actualité dits « alternatifs », dont certains sont clairement subventionnés par le Kremlin, tandis que d'autres ont des sources de financement beaucoup plus opaques. Le travail des fonctionnaires semble colossal, tant la masse de fausses informations accessibles en ligne est énorme, et il fait déjà l'objet de critiques jusqu'au sommet de l'État. Personne ne détient le monopole de la vérité, selon le président tchèque, fervent supporter de Donald Trump. Miloš Zeman méprise autant le travail de ce nouveau centre que celui des journalistes. Plus que de traquer les canulars et autres trolls sur Internet, les experts en désinformation ont également pour mission de veiller à ce que les prochaines élections ne soient pas l'objet de piratage. La menace est bien réelle, comme vient de le constater le chef de la diplomatie tchèque. Son courrier électronique a été espionné pendant des mois, dans ce qui ressemble, selon lui, au piratage du Parti démocrate pendant la campagne présidentielle aux États-Unis. Et tous les regards de se tourner vers Moscou, jamais loin des mauvais coups pour bon nombre de Tchèques qui ont bien connu propagande et censure et qui ne se font guère d'illusions sur les fonctions précises de certains de la centaine d'employés de l'ambassade russe à Prague.
Alexis Rosenzweig à Prague et puis à noter en France cette initiative du journal Le Monde, toujours pour lutter contre la désinformation, qui vient de mettre en place sur son site un décodex afin de trier le bon grain de livret. Et c'est la fin d'Accent d'Europe, émission réalisée et mise en onde aujourd'hui par Olivier Roux. On se retrouve demain dès 12h40 temps universel et tout de suite sur RFI.fr à la page émission. Dans moins d'une minute sur RFI, un nouveau journal.